Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Pour comprendre la religion et son rôle dans l'Antiquité romaine, rien n'est plus parlant que l'analyse des rituels funéraires. C'est ce à quoi John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, consacre ce cours. Nous savons, grâce au texte, comment se passaient les premières phases du protocole mortuaire, dont le but était de retrouver, après ce trouble qu'est la mort d'un proche ou d'un personnage éminent, sa propre réintégration dans l'ordre du vivant et dans l'ordre social. Il s'agissait donc, d'abord, d'un rite de séparation. John Shedd, grâce aux récentes découvertes archéologiques, peut reconstituer peu ou prou ce qui se passait pendant la période des 8 jours que duraient les funérailles avant de les conclure au 9e jour. Car les fouilles témoignent surtout de la variété des pratiques et des traditions funéraires locales, même si leur structure présente des rythmes homologues. Après l'exposition du cadavre, pied face à la porte d'entrée, la visite des proches, la venue des pleureuses, les jeux de lampes et de parfums, le mort était porté en procession vers la nécropole. Puis il était soit incinéré, soit inhumé selon l'époque ou les coutumes locales. Mais dans la plupart des cas, et jusqu'au 2e siècle de notre ère, la crémation était la pratique la plus commune. C'est à ce moment-là qu'avait lieu le sacrifice et le repas mortuaire. Ce repas fonctionnait comme un banquet habituel, d'abord des viandes, puis des friandises, des fleurs et des parfums. On a d'ailleurs retrouvé, au cours des fouilles archéologiques, des nécropoles fort bien aménagées, avec des lieux ouverts à l'usage de tous, pour installer les tables du banquet, cuire les aliments et tout ce qu'il fallait pour accomplir le rituel. Mais à quoi correspondait ce repas? Était-ce celui des vivants? Était-il partagé avec le mort? Était-il la préfiguration des repas que prendrait le défunt dans l'au-delà? Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Environ 20 heures après la crémation, le temps que refroidissent les cendres, on lavait avec du vin les os qui étaient restés intacts et on les plaçait dans une urne. L'urne était ensuite placée dans un tombeau ou dans une niche avec des offrandes secondaires, fruits et divers ustensiles brisés volontairement. On a retrouvé également dans les tombes des lampes à parfum et même du mobilier. Il y avait donc, accompagnant le mort, plusieurs séries d'offrandes. Ce soir, en illustrant son propos de photo, John Shedd poursuit ses investigations sur les rituels funéraires romains. Écoutez.
À Le Pilon, à Marennes notamment, dans le Rhône, dans cette tombe tardive d'enfants de 10 à 14 ans, le mobilier est placé à nouveau sur une étagère à côté du cercueil. Une étagère où on a d'abord une lampe et un collier, et puis sur l'étagère même, vous avez un panier avec les ossements d'un poulet. Donc, la restitution, on met le poulet entier, mais peut-être qu'il était plumé, on ne sait pas. D'autre part, ici, on a de nouveau le vase à viande et les vases à boissons. Dans la nécropole de Malbosque à Montpellier, à part une cruche qui se trouvait dans le cercueil même à côté de la tête du défunt, un homme d'âge adulte, le reste du matériel, à l'état fragmentaire et perforé, avait été posé sur le cercueil. Entre parenthèses, voilà un de ces trous qui peut correspondre à un tuyau de libation ou à l'indication de l'entrée de libation. Pareillement, dans une autre série de tombes très, très spectaculaires qui ont été fouillées dans le Calvados à Vaton, j'en ai déjà parlé, près de Falaise, un mausolée contenait dans un cercueil taillé dans un tronc d'arbre le corps d'une femme d'environ 40 ans qui était enterrée sur le ventre, une pratique qui est attestée, d'après Frédéric Blaiseau, dans 10 à 20% des tombes de Lyon et de Marseille, à la même sous l'Empire, et dans 20 à 40% des tombes en Rhône-Alpes et Languedoc. Donc ce n'est pas une pratique qui immédiatement nous renvoie dans certaines interprétations. Ça peut être banal. Dans le cercueil même se trouvaient deux vases à parfum et peut-être un troisième qui était très mal conservé. Une monnaie des années 140 à 144 de notre ère était déposée le long du tibia droit. Donc peu de mobilier, comme d'habitude. Pas un mobilier très surprenant. Ce qui est en revanche est très intéressant, ce sont les découvertes faites à l'extérieur du cercueil, sur les banquettes qui longeaient le caveau proprement dit. Sur les banquettes donc, qui bordent les quatre côtés de la fosse du cercueil, les fouilleurs ont retrouvé des ossements d'animaux et des petits clous qui peuvent à nouveau provenir d'étagères ou de boîtes, comme dans les exemples précédents. Sur la banquette orientale, sans doute dans un coffre, reposaient des portions de cochon, les restes d'une poule et le corps d'une oie complète. Les portions de porc, un membre arrière, le gril costal, et un membre antérieur, étaient détachés l'un de l'autre, mais respectaient, comme nous l'avons vu dans les tombes de la Madeleine, la position anatomique, comme si l'on avait à nouveau voulu recomposer la partie concernée de l'animal. Toujours cette mise en scène qui renvoie au rituel, au côté artificiel de ce qui se passe. Un deuxième ensemble carné avait été déposé sur la banquette sud-ouest. Il contenait les restes, cette fois-ci, de deux porcelets de quelques mois, de trois poules et d'une oie, encore. Les squelettes paraissent avoir été, dans ce cas, presque complets. Ce qui a été relevé par les archéologues de cette nécropole, c'est le nombre d'animaux en cause et le dépôt de porcelets entiers, qui est rare à cette date, qui semblerait, dans ces régions, plutôt pratiqué au IIIe siècle. Là, nous sommes au IIe siècle. D'autre part, même si les ossements n'en ont pas gardé les traces, il est vraisemblable, d'après les archéologues, que ces viandes aient été cuisinées avant d'être déposées. En tout cas, il me paraît d'un côté certain que ces offrandes alimentaires étaient destinées à la défunte, car elles ont été déposées dans des coffrets ou sur des étagères prévues à cet effet. Il ne s'agit pas de restes de banquets autres jetés dans la fosse au moment de la fermeture et provenant, par exemple, du banquet des célébrants. Néanmoins, dans un cas, il s'agit d'un partage, car une partie du cochon manque. Le reste a donc été utilisé et mangé par quelqu'un d'autre. La famille endeuillée. Est-ce qu'il y avait un partage avec une divinité? Mais là, nous sommes en Normandie. Je ne sais pas du tout s'il faisait les mêmes rites qu'à Rome. Mais le problème, on voit qu'il y avait un partage au moment des funérailles. Les porcelets, les volailles, en revanche, qui se trouvent aussi d'un autre côté de la tombe, sont séparés de ce qui se trouve là, eh bien, n'ont pas été partagés, ils ont été donnés entièrement à la défunte. Les données ne permettent pas de distinguer deux temps dans ces dépositions qui correspondraient à Rome au sacrifice de la truie praesentanea et au rite du neuvième jour. On pourrait avoir deux moments différents de déposition de ces viandes. Nous ne pouvons pas le faire, l'archéologie ne nous le permet pas pour l'instant. Il faut toutefois signaler que les porcelets ne sont manifestement pas partagés, mais entièrement offerts à la défunte, ce qui renvoie plutôt à une déposition style holocauste, même si on n'a pas brûlé les victimes, on les a enterrées on signale par là qu'ils ne sont pas à partager, mais qui sont entièrement offerts à la défunte. Comme nous ignorons les règles sacrificielles du partage des oies et des poulets, nous ne pouvons pas les utiliser comme argument dans cette discussion. Est-ce qu'ils s'ajoutent simplement à chaque fois pour compléter le banquet? Nous ne savons. Toujours est-il que la victime entière, comme ces deux porcelets, etc., s'adresse uniquement aux mânes du défunt, alors qu'une victime partagée est consommée par plusieurs partenaires rituels qui peuvent encore, avec une certaine prudence, se fréquenter, comme le défunt au moment qui prélude à son enterrement. Nous reviendrons à cette question, mais il est en tout cas évident que nous pouvons parler de sacrifices et de banquets sacrificiels auxquels participe aussi le défunt ou la défunte ici. Tous ces actes ont été liés à l'inhumation du corps dans le cercueil et la fermeture de celui-ci. Les restes alimentaires qui sont liés à cette déposition remplissent le même rôle que les aliments déposés dans la vaisselle que l'on trouve par ailleurs dans les tombes. Plus excitante encore est une découverte réalisée au-dessus de la fosse avec notre cercueil. À environ un mètre au-dessus du caveau contenant l'inhumation, a été découvert un squelette de bélier entier déposé dans une petite fosse située dans l'axe médian du mausolée. Ce squelette est bien conservé, mais il semble avoir été pendant un certain temps exposé aux attaques des prédateurs avant d'être recouvert peu à peu de terre. Il est vraisemblable que la déposition du bélier n'ait rien à faire avec la constitution de la tombe. Il y a presque un mètre, hein, je crois, ou en tout cas une certaine ampleur de terre entre la tombe et ce squelette. D'après les sources littéraires, nous pouvons proposer un cadre pour cette déposition. Deux choses. Il pourrait s'agir d'un rite lié à la fermeture ou à la constitution définitive de la tombe, telle qu'elle pouvait également avoir lieu lors du sacrifice du neuvième jour. Mais je pense qu'il faut rejeter cette interprétation, car l'animal est déposé entier, est déposé à une certaine hauteur au-dessus du remplissage de la tombe, et je ne pense pas que il puisse y avoir un rite de ce type au moment où on ferme la tombe. Enfin, c'est une impression, peut-être que j'ai tort, mais cela me semble inexact. L'animal est de nouveau déposé en entier, ce qui correspondrait au rite de l'Holocauste, c'est-à-dire on cède entièrement un animal au dieu Man d'une personne enterrée, soit qu'on le brûle entièrement ou qu'on l'enfouisse dans la terre. Mais il semble, et c'est une donnée supplémentaire qu'il faut ajouter, d'après les archéologues qui ont fouillé cette structure, que la déposition ait été faite après l'effondrement du plafond de la chambre funéraire, sans être affecté par lui. Il ne s'est pas effondré avec le plafond de la chambre funéraire. Les fouilleurs se demandent donc s'il ne peut pas s'agir d'un acte de nécromancie. Quelqu'un aurait essayé d'entrer en relation avec la défunte, avec des rites que la morale réprouvait. À titre personnel, je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un rite lié à la refermeture de la tombe, au réaménagement de la tombe. Nous verrons dans la suite pourquoi je propose cette idée. C'est-à-dire au moment où tout s'effondre ici, on répare la tombe, puisqu'il y a toujours une occupation près de cette villa jusqu'à l'époque mérovingienne, et on restaure, et j'ai l'impression qu'au moment de la refermeture de tout cela, on offre quelque chose au dieu Man de la défunte qui est là, et on lui offre un bélier qui, d'après les sources romaines, intervient également dans les rites funéraires. Vous vous rappellerez sans doute qu'on en a parlé. Voilà. Avant d'aller plus loin, maintenant, nous pouvons examiner si les tombes des défunts morts avant l'âge et les personnes dont la communauté avait peut-être peur étaient enterrés différemment d'autres personnes. Comme ici, dans l'interprétation des fouilleurs, est-ce que peut-on penser d'intervention extérieure sur le corps des défunts ? Soit les rites pour les défunts prématurés, est-ce que leurs tombes sont particulières ? Est-ce qu'on se protège d'une manière ou d'une autre ? Et puis, ensuite, nous verrons des rites beaucoup plus agressifs où on fixe manifestement des gens dans les tombes. Les décès des jeunes princes que nous avons déjà évoqués nous portent vers les funérailles que les Romains qualifiaient de prématurées. Certaines coutumes valant pour ces funera acerba sont conservées par Servius, le commentateur de Virgile, dans ses remarques sur les funérailles du jeune Pallas dans l'Énéide. Le commentaire porte sur l'usage des torches pendant les funérailles que nous avons déjà évoqué. Servius écrit, je cite, « C'était encore davantage la coutume romaine que les impubères soient enterrés de nuit à la lumière des torches, afin que la maison ne soit pas souillée par des funérailles prématurées d'un enfant. Cela arrivait avant tout pour les fils de ceux qui géraient une magistrature. » Et après avoir parlé des funérailles de Pallas dans l'Énéide et évoqué une théorie sur l'utilisation des torches, il continue « Varron et Verrius Flaccus disent « Si un fils de famille est mort à l'extérieur de la ville, les affranchis et les amis vont à la rencontre de ceux qu'ils ramènent et l'introduisent dans la ville de nuit, à la lumière des cierges et des torches. Personne n'est invité à ces funérailles. » On constate donc que les Romains procédaient à des mises en scène particulières pour souligner la gravité du deuil. Vous vous rappelez aussi que dans les règlements de pompes funèbres que nous avons lus, l'ordre des funérailles est perturbé également par la déclaration d'un décès prématuré. Il a immédiatement la préséance, comme si on voulait se débarrasser au plus vite de ce cas. Et à ce moment-là, les funérailles sont réduites à l'extrême, d'après ce qu'on dit. Ça dure même jusqu'au IIe siècle, plus que Plutarque et en pays grec, dans une consolation à sa femme, c'est un exercice convenu qu'on fait au moment d'un deuil, les auteurs écrivent des consolations pour leurs proches, ils avaient perdu un enfant, et il dit que là, finalement, pour ce décès, il n'avait invité personne, ça a été fait dans l'intimité familiale, comme nous le disons. Ces rites sont brièvement évoqués aussi quand les corps des princes impériaux du début de notre ère sont ramenés à Rome. Tibère a même appliqué cette coutume des funera acerba aux funérailles de Germanicus contre la voix de ceux qui réclamaient pour le prince des funérailles publiques en grande pompe. L'empereur apparaissait ainsi se conformer aux vieilles traditions, austérité d'abord. On ne célèbre pas deux fois des funérailles, puisque Germanicus arrive à Rome dans une urne que porte sa femme. Et d'autre part, on applique la pratique des funera acerba pour montrer le chagrin. Mais en fait, d'après cette mauvaise langue de Tacite, il évitait ainsi un étalage de l'énorme popularité de Germanicus, alors que pour lui-même, la popularité était très basse. Tout cela nous semble dire qu'il se passe quelque chose avec les jeunes qui meurent avant l'âge. Les inscriptions, et notamment les poésies funéraires, ont conservé des témoignages de ce type de funérailles. Une inscription trouvée dans la nécropole de Classe et près de Ravenne évoque la mort de la petite Herenia Hilaritas, je traduis, fille très douce, qui vécut 9 ans, 6 mois et 11 jours, Aurelius Antoninus, sous-officier, optio, et Herenia Marcellina, ses parents, ont fait cette tombe, contra votum, contrairement à leurs vœux. Herenia Marcellina, l'expression, pardon, contra votum peut bien sûr être une mention vague qui exprime la tristesse des parents qui n'avaient vraiment pas souhaité cela. Et ça peut donc être une formule commune, comme par exemple dans le petit poème qui figure sur l'inscription de Fortunata trouvée sur la Via Ostiensis en face de la basilique Saint-Paul à Rome. Fortunata s'adresse au passant et lui dit, entre autres, c'est ce que j'ai souligné, « Et toi, rappelle-toi que tu es né mortel, car personne n'a pu dépasser la destinée par ses vœux. » Tu mortalem te metnatum esse memento nam nulli liquid votis excedere fata. Mais comme ces vers le signalent, il n'est pas question, à mon avis, que ce soit une simple formule convenue, que ces vœux soient de simples aspirations. On attendait mieux, on souhaitait mieux. Non, je crois que c'est plus précis. Ce dont il est question, ce sont bien les vœux formulés devant les dieux pour la longue vie d'une fille ou d'un proche. Nous en avons beaucoup d'exemples. Mais ces vœux ne valent rien contre les fata, les destins, les destinées tissées par les parques. C'est cela que dit la petite Fortunata. Par conséquent, Antoninus et Marcellina se plaignent discrètement de l'inanité du vœu qu'ils avaient vraisemblablement formulé à un moment donné pour que Herennia Hilaritas atteigne, par exemple, l'âge du mariage, 13 ans environ, ce qui correspondait à l'âge de la majorité, ou alors à 6 ans, etc. Mais elle avait déjà dépassé ce cap. Les expressions de tristesse devant la mort précoce, donc, peuvent prendre une sorte presque d'accusation à l'égard des dieux. Ce qui se fait à Rome, le même Germanicus, quand il était tombé malade et que la nouvelle arrivait à Rome, a suscité un mouvement de foule. Les gens se sont précipités dans les temples pour faire des vœux pour sa guérison. Et quand les vœux n'ont pas été entendus par les dieux, que le brave Germanicus est mort quand même, les temples ont été lapidés. Il y a eu une lapidation des dieux, si vous voulez, tellement la foule était furieuse contre eux parce qu'ils n'ont fait cela contra votum. Il se peut que dans ces textes, on exprime discrètement ce genre de choses. Parfois, on exprime aussi de façon explicite ce deuil précoce. Et nous avons notamment la chance d'avoir eu récemment une nécropole dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est dans les environs de Ferrare et de Vogens, à Vogens, qui est un site célèbre pour les archéologues de la mort, puisque c'est la première nécropole, une des premières nécropoles fouillées dans son ensemble, qui ait été publiée, une nécropole du début de l'Empire. Et justement, à côté, on a Gambulaga, qui est donc une petite nécropole où une partie comprenait les tombes des Fadieni, une famille. Donc, vous voyez, c'est une nécropole qui longeait vraisemblablement une route et c'est ce secteur-ci qui nous intéresse, c'est l'ensemble funéraire des Fadieni, une famille, Fadieni. Dans les inscriptions funéraires qui marquaient les tombes de cette famille, celle-ci est connue sur 4 générations. Le premier qui est connu, Gaius Fadienus, vivait entre les années 20 avant et 30 après notre ère. Le dernier, Lucius Fadienus Actor, entre 40 et même au-delà, à la fin du 60 et 80, et peut-être plutôt 70 à 100, d'après les appréciations qu'on peut faire, peu importe. Dans cette famille, 3 garçons, au moins, moururent jeunes. Il y a d'abord Vegetus à 21 ans, Valens à 23 ans et Actor à 17 ans. Cette mortalité élevée révèle, si c'est nécessaire, quelle était la situation démographique, même dans une famille aisée, relativement aisée. Il faut ajouter que cette mortalité ne concerne que des enfants qui avaient déjà atteint l'âge de la puberté. Les enfants plus jeunes étaient peut-être ensevelis dans un autre secteur de la nécropole. Il y en avait certainement beaucoup plus, mais ils n'apparaissent pas. Les inscriptions des 3 jeunes gens morts jeunes sont pourvues d'une allusion à cette mort prématurée grâce à de petits poèmes. Pour Valens, le poème, dont la fin est mutilée, évoque la cruauté des ombres qui avaient ravi le jeune homme, selon un thème également présent dans d'autres poésies funéraires, de même que la formule « flebilis hora », l'heure suscitant des pleurs. Cette expression « flebilis hora » est devenue célèbre. On la trouve aussi dans 2 autres poèmes funéraires de Rome. Et puis, dans l'Antiquité tardive, elle a eu une certaine célébrité pendant le Moyen-Âge parce que le philosophe Boès l'a utilisé et Bède le Vénérable aussi, et ainsi les clercs se la sont transmises. On ne sait pas, bien entendu, d'où elle vient. Le poème de Végétus est plus banal et il attire l'attention simplement sur le devoir accompli par le père pour le fils et non le contraire. Il faut signaler que la proximité dans le temps des deux décès et l'appartenance à une même famille ont conditionné aussi la forme de la stèle funéraire. Elle est identique jusque dans la disposition de l'âge du défunt des deux côtés du portrait. L'emplacement du poème funéraire des deux côtés de la niche avec le portrait du défunt et même le décor du fronton avec les deux lions et sans doute un attis ou quelque chose au-dessus. Les deux poèmes, vous l'avez vu, invoquent la mors immatura, hein, la mort précoce, non, qui n'est pas mûre, qui est prématurée. Si la stèle du troisième jeune homme, Actor, ressemble aux deux premières par sa structure générale, en figurant le jeune défunt dans une niche et les parents dans l'autre, la disposition et le modèle sont différents. Vous apprécierez aussi la différence des portraits qui pourtant sont effectués dans le même lieu, la même famille et sensiblement à la même époque. La famille a dû recruter un sculpteur et un rédacteur différents pour la stèle, car le poème est émaillé de fautes d'orthographe, je vous les signale, qui ne déparaient pas une copie d'examen de nos jours. L'ensemble est moins soigné, et le deuxième poème est même copié, les fautes en plus, de la stèle de Valence. Sur les autres stèles des Fadieni, il y a aussi parfois des poèmes funéraires, mais bien sûr, il ne parle jamais de la mort prématurée. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce cas, c'est que nous avons aussi les tombes. Nous n'avons pas seulement les poésies, comme c'est réellement pour les autres poésies funéraires le cas. Ici, nous avons tout. Et si nous examinons brièvement les tombes elles-mêmes, qui ont pu être fouillées, nous ne découvrons pratiquement aucune différence par rapport aux tombes des autres Fadieni. Ce sont des tombes banales, disons. Donc, apparemment, pas de rite particulier. Regardons la tombe de Valence, qui mourut donc entre 20 et 40 de notre ère, et qui était âgée de 23 ans. L'ossuaire est abrité par deux tuiles en capucine, bloquées par deux tuiles placées aux extrémités. Contre la tuile droite, située au nord-ouest, était placé un petit pot en terre cuite à parois minces. Dans la tombe elle-même se trouvait l'ossuaire en terre cuite avec son couvercle, une monnaie datant de 22-30 après notre ère, ainsi qu'un plat, une coupe de dimension réduite, et enfin deux balsamères en verre. Vous les avez en bas. Dans une fosse contre la tombe, vous l'avez vu, elle était un peu plus loin, ont été retrouvés dans les cendres deux clous, une cruche en terre cuite, une lampe, 16 balsamères et des restes carbonisés de figues, de dattes et de sainfoin, donc des offrandes végétales. Si des balsamères avaient été déformés légèrement par la chaleur. Regardez celui-là qui a pris un coup de chaud, celui-là aussi, etc. Soit parce qu'ils avaient été trop près de la chaleur du bûcher, ou alors que les cendres, au moment où on les a déposées, les aient déformées. En tout cas, la cruche et les autres objets n'étaient pas déformés. En surface a été trouvé le grand clou numéro 1, qui est la seule chose qui soit un peu intéressante ici, et puis le fond d'une amphore. La tombe donc était fermée d'une tuile et l'amphore était plantée dans la fosse avec les cendres. La deuxième tombe de Végétus, qui est décédé entre 20 et 40 à l'âge de 21 ans, n'est guère différente. La fosse de la tombe est placée derrière la stèle, hein, vous voyez la stèle, la tombe. Elle contient sous une couche de cendre une amphore retournée qui sert de couverture et sous l'amphore, une urne avec les ossements du défunt. Dans l'urne ont été trouvés, c'était l'image que je vous ai déjà montrée, trois balsamères en verre et une monnaie non identifiée qui a subi le feu. Voilà tout le matériel. La bouteille en verre numéro 18 était déposée contre l'amphore au fond de la fosse. Et dans la couche de remplissage de la fosse ont été retrouvées une monnaie en bronze de Claude, datant entre 50 et 54, l'anse d'un vase en bronze, une plaquette de plomb numéro 9, des clous dont certains sont tordus, un peu tordus. La partie supérieure d'une cruche, c'est le 17, qui est là, et je vous fais de nouveau remarquer que la partie inférieure manque. Une petite bouteille de verre, une perle de collier en pâte de verre, donc il y avait aussi un collier, des fruits carbonisés, des figues, des dattes, des raisins, ainsi que 25 balsamères, plus quelques fragments, dont certains étaient cassés, d'autres déformés à nouveau par la chaleur. Le nombre des balsamères est important et pourrait être lié à la mort prématurée du jeune homme. C'est nettement plus important que ce qu'on peut trouver dans les autres tombes. Mais les autres tombes dans cette même nécropole des Fadieni attestent la même coutume, que le décès soit prématuré ou non. Donc, à nouveau, nous débouchons dans une impasse. Enfin, la troisième tombe, celle d'Actor, mort à 18 ans entre 60 et 90-100, est insérée entre les tombes 8 et 10. Comme la première des tombes examinées, elle est formée par des tuiles en capucine pour la tombe proprement dite et puis une fosse. Sous cette couverture se trouvaient deux urnes, cette fois-ci deux urnes cinéraires en verre avec leur couvercle, numéro 11 à 14. Six monnaies de bronze datant de 73 à 81, 2, un encrier en terre cuite, c'est le numéro 10, deux balsamères, 15-16, et une tessère en os, le numéro 17. On ne sait que faire. L'encrier fait clairement allusion aux leçons que recevait le jeune homme. C'est un indice de sa culture et de sa situation sociale. Et vous vous rappelez, dans certains poèmes funéraires de jeunes gens, on faisait l'éloge de ce qu'on pouvait faire à cet âge-là, c'est-à-dire leur statut de bon écolier qui lisait les bons auteurs, qui les avait lus et qui connaissait beaucoup de choses. Et souvent, les petits poèmes funéraires citaient une profusion d'auteurs classiques. À l'extérieur de la tombe, dans la fosse qui est à côté, furent retrouvées une boucle d'oreille en bronze, un plat en céramique, une coupe de parois minces, une lampe, deux balsamères supplémentaires. Apparemment, ce qui est intéressant ici, c'est que les ossements du jeune homme ont été déposés dans deux ossuaires. Le balsamère numéro 1 a été découvert dans le remplissage de la fosse et témoigne sans doute de cette phase du rite. On constate que pour cet adolescent, en tout cas, les balsamères sont beaucoup moins nombreux que dans les deux autres, ce qui montre l'inutilité d'une recherche sur les motifs de la déposition des parfums par les assistants, même en général. Puisque vous voyez, même dans cette catégorie des morts précoces, ça change de 40 à quelques unités. Peut-être, c'est une idée qui m'est venue en lisant ce dossier, c'est simplement le nombre d'assistants à cette cérémonie qui détermine le nombre de vases à parfum. Vous vous rappelez qu'il est d'habitude, nous l'avons vu à propos des funérailles de César, qui sont bien documentées, d'apporter du parfum et de l'encens aux funérailles, de les offrir en cadeau quand on exprime ses condoléances ou quand on va voir le corps, comme c'est le cas pour les grands hommes. Il est très possible que, quand il y a beaucoup de monde, chacun jette son petit vase à parfum. C'est tout à fait imaginable, mais nous ne pouvons pas dire plus. Il faut ajouter que dans deux des tombes examinées, celles de Valens et de Vegetus, ont été retrouvées dans les ossuaires et dans les fosses à cendres, des fragments d'os carbonisés de porc. Il peut être significatif que la tombe d'Actor ne contienne pas de restes animaux sans que nous sachions pour quelle raison. À 18 ans, il était déjà adulte et on ne voit pas pourquoi lui n'aurait pas bénéficié des rites d'adulte, mais c'est comme cela. En tout cas, Ces tombes, qui témoignent des fréquentes disparitions de jeunes gens et d'adolescents, qui sont clairement marquées comme des tombes de jeunes gens morts avant l'âge, ne constituent apparemment pas une catégorie particulière de tombes. Ce ne sont en tout cas pas des tombes qui ont été l'objet de rites particuliers de défense contre les morts insatisfaits de mourir si jeunes ou bien d'utilisation de leur colère pour la diriger vers autrui. Puisque nous avons posé la question des tombes particulières, nous pouvons examiner quelques tombes qui révèlent des aspects des rites funéraires qui sont moins apaisés que ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Il s'agit donc là de rites de défense et de défiction. La littérature antique et les rites de la fête des Lemuralia, dont nous avons déjà parlé, évoquent l'insatisfaction de certains défunts, notamment ceux qui sont morts jeunes et qui n'ont pas reçu une sépulture correcte et qui viennent hanter les vivants. D'autre part, il est courant aussi que des sorciers ou des individus pratiquant la magie se servent des tombes pour se protéger ou pour nuire à d'autres en exploitant l'amertume de certains défunts. On va voir des sorcières ou des sorciers qui habitent dans des nécropoles pour leur demander de contraindre les morts à collecter des informations aux enfers qui puissent servir, évidemment, les clients du sorcier. Apulée, dans son procès de magie, dont le texte La Défense est conservé, l'Apologie, évoque aussi ceux qui utilisent les tombes des enfants pour célébrer des rites magiques. Enfin, les communautés paraissent s'être parfois protégées contre la malfaisance de défunts que l'on soupçonnait, pour une raison ou une autre, de nuire à leurs concitoyens au-delà de leur mort. Plus généralement, dans la mesure où les rites de la mort avaient pour objectif d'opérer et de représenter la séparation entre les vivants et les morts, les funérailles comportaient souvent quelques rites traduisant cette altérité des défunts. Une première question se pose donc, qui est de savoir si certaines pratiques qui concernent à détruire la vaisselle funéraire représenteraient la conséquence d'un geste rituel banal ou bien sont le résultat d'éléments extérieurs. On a ainsi pu constater qu'autour des tombes, comme ici à Pompéi, gisaient de nombreux gobelets ou balsamères fragmentés. Les inventeurs supposent qu'il s'agit des offrandes placées en surface lors des commémorations annuelles et qui ont ensuite été piétinées. On peut tout aussi bien supposer qu'elles aient été jetées par terre, comme il convient de le faire pour les offrandes à ceux d'en bas. D'après le dictionnaire de Paul Diacre, résumant celui de Festus, l'expression « inferiae », offrande au dieu Man, est écrite en ces termes. « Inferiae » est le nom pour les sacrifices qui sont offerts au dieu Man. Même si toutes les offrandes sacrificielles peuvent être mises en relation avec le terme « inferio inferius » qui comporte un renvoi à ce qui est en bas, à ce qui va vers le bas, puisqu'on peut aussi verser vers le bas sur un autel, il semblerait cependant que le terme soit particulièrement adapté pour les offrandes au dieu Man. Dans un texte de Virgile, par exemple, le rite funéraire en l'honneur d'Anchise, le père d'Énée, se fait par terre. Hein, vous voyez qu'Énée, célébrant cette première commémoration de l'anniversaire de la mort de son père, il procède aux libations conformes à la tradition. Il répand par terre deux coupes de vin pur, funditumo, etc. Et il jette aussi par terre des fleurs, etc. Pareillement, on jetait par terre les offrandes aux divinités qui résidaient à la surface de la terre, comme par exemple les dieux Lar ou la Mater Larum, la mère des Lar, une figure divine à laquelle les frères Arval jettent son banquet sur la voie qui mène au temple de Deadia. Vous voyez qu'il y a deux sacrifices, un premier dans le temple à Deadia et à cette Mater Larum et à Deadia sur une table, on sacrifie sur une table, et à Mater Larum sur une motte de gazon posée par terre. Elle reçoit tout par terre. Et ensuite, Deadia reçoit quelque chose sur son autel, à l'extérieur du temple, des boulettes et des galettes. Ensuite, les prêtres reviennent dans le temple, ils prient et touchent des marmites avec des bouillies, poultès. Ensuite, ils sortent du temple et ils jettent sur la montée son repas à la mer des lards. Janus apertis perclivum matrilarum kenam yactaverunt. Tout ce qui concerne ceux de la terre ou ceux d'en bas est jeté. Donc, on peut se demander si ce qui se trouve autour des tombes ou dans les tombes n'a pas été jeté. Je l'ai déjà dit. C'est pour cette raison aussi que souvent les balsamères situés dans les ossuaires ou dans les cercueils sont brisés. Ils sont jetés sur ou dans le contenant. La pratique est même attestée sur les bûchers. Là, sur Notre-Dame qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, balsamères, l'un dans le sarcophage, d'autres à l'extérieur, sont fragmentaires, alors qu'on a bien fouillé et que rien n'a été enlevé. On les a jetés, ils ont explosé sur place. Mais c'est un rite d'offrande et pas de protection. Frédéric Blaiseau donc, a noté aussi qu'après la crémation, des cruches ou des amphores étaient fréquemment brisées intentionnellement sur les bûchers. Il est vraisemblable que là encore, les récipients contenant du vin aient été jetés ou cassés afin de permettre au liquide qu'il contenait de se déverser sur les ossements du défunt. Ça permet de laver notamment les ossements. Des doutes se sont, je vous l'ai dit, élevés contre cette interprétation du bruit intentionnel de ces vases. Alors, c'est une première objection. On voit déjà que ça ne s'agit pas de rites de protection. Moi, je pense plutôt à des rites d'offrande particuliers. Mais il y a eu une deuxième contestation de cela qui constate, avec d'autres chercheurs, qu'il y a des fragments de poterie qui portent des traces de brûlure passant au-dessus des cassures. On peut se demander, effectivement, si ce n'est pas le cas. Mais comme je vous l'ai dit, on peut l'exclure également. C'est un argument intéressant. Il y a certainement des plats et des coupes et des amphores qui explosaient au feu. Mais pas seulement, ce n'est pas un argument suffisant, puisque dans ces mêmes dépositions d'ossuaires avec ces débris de bûcher, nous trouvons des vases qui ne sont pas passés par le feu et qui ont été cassés eux aussi, je vous l'ai dit dans la leçon précédente. On peut exclure ici tous les ossuaires sur lesquels ont été pratiqués des trous pour l'insertion d'un tube de libation, tel que nous les verrons plus loin. Mais il est peu probable que les inévitables explosions de vases dans le feu du bûcher expliquent tout. Je vous l'ai dit, que fait-on avec les vases qui sont entiers dans les tombes et qui sont quand même troués, comme par exemple à Kabas, ici, à la Calade, je vous l'ai montré, ou à Mouzarna, nous avons aussi de nouveau des vases qui ont été maltraités, de nouveau ce trou significatif qui, lui, doit être autre chose, c'est un renvoi à la libation. Là, il y a des trous qui sont pratiqués, des piquetages, aussi un ébréchage d'une partie des lèvres, et puis là, c'est très clair, il y a un joli petit coup qui a été pratiqué dans le vase pour symboliser, comme j'ai dit, que ce n'est plus un vase qui puisse être utilisé. Plus généralement, Frédéric Blaiseau a souligné qu'il n'est pas simplement question de vases brisés, mais que les vases brisés qui se trouvent dans les tombes sont fréquemment incomplets aussi. Soit leur col manque, ou à moitié, ou entièrement, soit ils n'ont pas de fond. Et elle conclut que ces mutilations énoncent que ces vases sont impropres à être utilisés. En d'autres termes, il s'agit de vaisselle rendue méconnaissable et impropre à l'usage quotidien. Son altérité traduirait donc son appartenance à un autre espace, l'espace funèbre, et au rite de la mort, à l'image des comportements dont les textes littéraires rendent compte. Frédéric Blaiseau va même plus loin. Elle relève que dans certaines tombes, une partie des vases est brisée avant le passage au feu. Une fois, une autre est passée au feu sans être cassée, comme dans une tombe bûchée, par exemple, où la cruche est brisée et jetée dans sa fosse avant la fermeture. Tout cela, ce sont des raisonnements qui, bien sûr, sont hypothétiques, mais fondés sur un certain nombre de témoignages. Ils ne sont pas du tout impossibles, car ce genre d'opposition devait continuer à se dérouler pendant les rites funéraires, même si les textes littéraires ne commentent plus ces phases-là des funérailles et du comportement, et si on le sait uniquement pour le deuil en général. Un autre aspect des rites concernant la vaisselle du défunt et jusqu'à son corps paraît confirmer ces suppositions. La tombe de la Calade à Cabas, que nous avons mentionnée plusieurs fois dans le Var, révèle quelques données étonnantes qui ouvrent la voie. Il s'agit d'une tombe de la fin du IIIe siècle de notre ère qui contenait les restes d'un garçon de 4 ans inhumé, dont uniquement le crâne a survécu dans un état très mal conservé. Entouré de tuiles, la tombe contenait un cercueil en bois sans fond ni couvercle dont témoignent des clous dans les 4 coins. Les dépositions sont extraordinaires en revanche. D'abord, sous le crâne du garçon se trouvent 4 clous. Un gobelet de verre cassé se trouve près de la bouche du garçon, gobelet en verre. À côté, une holpaie, numéro 281, repose elle aussi sur 4 clous, dont certains sont recourbés. Au centre de la tombe, ici, on trouve 2 autres holpaies. Celle que nous avons déjà vue, numéro 279, qui est celle qui a pris le coup, qu'on a vu plusieurs fois, qui était non seulement percée de part en part d'un énorme clou, c'est pour ça qu'elle a ce trou, mais reposée sur 3 autres clous fichés en terre. La deuxième couche 280, en revanche, est intacte, mais elle est couchée encore sur 4 clous. Enfin, dans l'angle 1, une lampe est posée sens dessus-dessous sur un clou et une grosse aiguille. Un autre clou a été placé sur elle et enfin un troisième est planté dans la terre près de l'anse de la lampe. Tout ce dispositif est proprement extraordinaire. Georges Bérard, le fouilleur, a bien compris que ces pratiques n'étaient pas anodines. Il évoque l'hypothèse que certains vases, comme le gobelet en verre 276 et l'olpé 279, seraient tombés dans la tombe au moment des funérailles, ou que la cruche 279 aurait déjà été ébréchée. Mais il doit constater que les autres vases ont été l'objet de gestes délibérés. Donc il faut se demander plutôt si le gobelet n'a pas été jeté dans la tombe ou laissé tomber conformément au rite d'offrande dont je viens de parler. On peut aussi mentionner ici le rite observé par le père de famille lors des Lemuralia de mai. C'est une vieille fête de Rome, je vous le rappelle, le contexte où on a encore ce geste protecteur du jet, où on fait une offrande propitiatoire aux fantômes insatisfaits que sont les lémures et qui tourmentent les vivants. Le père de famille jette des fèves par terre au-dessus de son épaule en se retournant. Il manifeste ainsi la distance maximale qu'un sacrifiant peut exprimer à l'égard d'une divinité, des dieux mânes, si vous voulez. On notera aussi que le père de famille ne doit porter aucun anneau et que ses vêtements ne doivent pas comporter de nœuds. Il ne doit jamais symboliser l'implication et le lien avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tout ceci nous permet de supposer que le jet et le bris de vase, comme ici, pourraient traduire la même intention de mise à distance des destinataires de l'offrande. Mais il y a encore autre chose. L'olpé 279, comme les 2 autres, ont été déposées chacune sur des clous, dont certains étaient recourbés, et la 279, en outre, était traversée d'un gros clou. Tout cela n'est pas... La lampe aussi est posée sur un clou, un autre la couvrait, etc. Tout cela n'est pas dû au hasard. Georges Bérard a parfaitement raison, à mon avis, d'évoquer prudemment, certes, à ce propos, ce qu'il appelle l'enclouage des morts. Il me paraît en effet que tous ces clous avaient effectivement, ils sont nombreux, et vous voyez qu'ils sont bien recourbés, ils avaient effectivement, sans doute, la fonction rituelle de fixer le défunt dans sa tombe. Or, dans ce cas-ci, il s'agissait d'un garçon de 4 ans, donc d'un décès prématuré. J'en déduirai que, contrairement à ce que nous avons observé à Santa Catarina di Gambulaga, les parents du jeune défunt jugeaient que ce décès précoce, ce funus acerbum, comportait des risques pour les survivants et ont procédé à des rites particuliers. Rien n'indique que la tombe ait été rouverte par des personnes anxieuses et désireuses de se protéger. Il s'agissait au contraire de rites qui ont été délibérément pratiqués au moment des funérailles. Là encore, nous pouvons supposer que les rites variaient de famille en famille, de région en région. Il y a des gens superstitieux, il y a des gens qui ne le sont pas. Nous avons la possibilité de confirmer ces hypothèses de Georges Bérard. D'abord, pour ce qui concerne la lampe retournée. C'est un rite très fréquent et qui doit signifier cela. Peut-être pas de fixer dans la tombe, mais de dire quelque chose sur l'espace funéraire. Nous en avons nous-mêmes trouvé dans la nécropole de Classe, près de Ravenne, en surface d'une tombe à crémation, deux lampes, l'une posée normalement, l'autre sens dessus-dessous. Donc on montre la non-lumière, en quelque sorte, ou la lumière qui n'est plus celle de ce monde, au moment où on communique avec le défunt. En tout cas, il faut constater aussi que nous ne pouvons relever de telles pratiques que dans les tombes à inhumation, la plupart du temps, pour des raisons évidentes, et à l'extérieur des sépultures, pour ce qui concerne les crémations. Mais, comme nous pouvons nous y attendre, les conduites rituelles de défense ou de représentation de l'espace funèbre sont les mêmes, qu'il s'agisse de crémations comme ici, ou de tombes à inhumation. Il y a mieux. Une exposition récente organisée à Castelfranco Emilia, près de Bologne, était précisément consacrée aux sépultures anomales, comme ils disent, aux rites de sépulture défensifs. La première est une inhumation d'hommes découverte au moment de la reconstruction de la gare de Bologne. Un clou est fixé sur le sommet de son crâne. Un autre est enfoncé dans son orbite droite. Un troisième pénètre derrière l'oreille droite, un quatrième près de la clavicule. Près de la tête, un anneau est fixé par deux clous à la terre. Ce n'est pas fini. Deux autres clous sont enfoncés dans l'avant-bras et le pouls droit, le fixe donc contre la poitrine. Un dernier perce le sternum. Je crois qu'aucun doute n'est permis. Il ne s'agit pas d'un corps torturé, mais d'un cadavre fixé dans sa tombe. En tout cas, notre homme a manifestement été traité après sa mort pour des raisons que nous ne pouvons pas savoir. Et pas davantage, nous ne saurons ce qui est arrivé au malheureux de la tombe 161 du chantier de la gare de Bologne. Ça continue. Couché sur le ventre, la tête sur ses chaussures cloutées, il a une blessure circulaire dans le flanc, qui provient sans aucun doute du gros clou qui repose sur son dos, à nouveau. Le rite est plus simple ici, mais comporte l'inhumation face contre terre, qui paraît ici pouvoir faire partie du rituel de conjuration. Mais il ne faut pas exagérer ici. Le clou et le geste trahi par l'os du bassin peuvent renvoyer à un rite protecteur, de défense. L'inhumation face contre terre peut renvoyer à autre chose. On voit qu'il y a des degrés de gravité des rites pratiqués, mais je crois que Bologne, dont nous verrons à la prochaine séance d'autres jolis exemples, sont, je crois, dans l'échelle des possibilités assez loin et montrent que certaines personnes avaient peur et que dans une nécropole tout à fait banale, comme celle de la gare de Bologne, on peut trouver des tombes aussi peu rassurantes, si vous voulez.
C'était Éloge du savoir avec ce soir John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation Anne de Pelchin, présentation Christine Goémé. Demain, suite du cours de John Shedd consacré au culte des morts dans la Rome antique. Et tout de suite, nous retrouvons les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.
We'll see you again, but not yet.